Vous êtes sur RTL.
18h. Les clés de l'info avec RTL Soir, Thomas Soto.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. À la une ce soir, une image, celle de ces 13 cercueils alignés dans la cour d'honneur des Invalides. Celle encore de ce militaire portant son frère d'armes et ne pouvant contenir ses larmes. Le chef de l'État a salué 13 destins français, s'inclinant devant le sacrifice des soldats tués au Mali la semaine dernière. Mort pour la France, dit-il, mort aussi pour les peuples du Sahel. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. 6 morts et une femme toujours portée disparue. Très lourd bilan après les pluies diluviennes d'hier dans le sud-est. Parmi les victimes, 3 secouristes morts dans le crash de leur hélicoptère. Témoignage dans ce journal. La réforme des retraites, le gouvernement affiche sa détermination, mais comment vont réagir les parlementaires confrontés à la grogne des usagers? C'est l'une des clés d'un conflit qui s'annonce dur.
Et on en parlera à 18h15 avec Christian Eckert, c'est l'ancien secrétaire d'État au budget, celui qui occupait le poste de Gérald Darmanin pendant le quinquennat de François Hollande. Il répondra notamment à vos questions au 3210.
À suivre également la fronde des enseignants contre le contrôle continu au bac. L'ouverture de la conférence climat à Madrid, peut-être encore un coup pour rien. Et puis l'histoire belge de l'arrondi qui rend fou. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 11, le 3, le 13, le 2 et le 5.
Notez aussi à 18h35 un sourire dans RTL Soir, celui de la comédienne Audrey Lamy. Au cinéma, elle vit une année de rêve, mais son prochain rôle ne ressemblera pas au précédent puisqu'elle a accepté d'être marraine de la nuit de la philanthropie. La météo ? Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Thomas.
Demain, le soleil sera là, le froid aussi.
Aussi, exactement. On peut commencer par ce froid puisque dès demain matin, il y aura des gelées quasiment partout au nord comme au sud, sauf tout près de la Méditerranée. Mais en revanche, c'est vrai que le ciel sera souvent très dégagé. Là où il n'y aura pas de brouillard, il y aura probablement assez nombreux sur les régions du nord et du nord-est, mais ils se dissiperont rapidement. Et vous l'avez dit, en cours d'après-midi, c'est bien le soleil qui s'imposera. Il restera un petit peu plus de nuages au nord de la Seine ou encore près des Pyrénées. Mais ailleurs, donc, ce soleil dominera très largement. Alors après les gelées matinales, ça restera froid l'après-midi. 5 à 9 degrés dans la plupart des régions. Il n'y a que près de la Méditerranée et ça leur fera du bien. On aura 12 à 19 degrés.
Merci Louis.
Thomas Soto, RTL Soir.
13 cercueils drapés des couleurs nationales, 13 destins français évoqués par Emmanuel Macron cet après-midi dans la cour des Invalides lors de l'hommage de la nation à nos militaires tués lundi dernier au Mali. Sous un soleil glacé, dans une ambiance pesante et recueillie, le président s'est incliné devant le sacrifice des hommes de l'opération Barkhane.
13 de nos plus valeureux soldats, 13 enfants de France, étaient tués sur le coup. Ils étaient morts pour la France. Pour la protection des peuples du Sahel, pour la sécurité de leurs compatriotes et pour la liberté du monde. Pour nous tous qui sommes là, réunis dans cette cour. Au nom de la nation, je m'incline devant leur sacrifice. Je m'incline devant la douleur des familles. Nos 13 soldats sont tombés. 13 noms, 13 familles, 13 destins.
Ce matin, le cortège funéraire avait défilé dans les rues de Paris. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur le pont Alexandre III pour saluer la mémoire des soldats tombés pour la France. Une foule immense, mais un grand silence, à peine quelques applaudissements. Cet après-midi encore aux Invalides, le public était venu en nombre, Émilie Beaujard.
Oui, plusieurs centaines de personnes à l'intérieur des Invalides et à l'extérieur aussi, devant un écran géant. Parmi elles, Sarah, elle fait partie de la famille de l'adjudant-chef Julien Carrette. Elle a suivi toute la cérémonie dehors, en mitouf. Dans une grande écharpe rouge.
Je ne peux pas être un enterrement mercredi à Pau et donc c'était important pour moi d'être là aujourd'hui. Ça nous a beaucoup plu d'être là avec eux et pouvoir avoir un hommage aussi à nos 13 soldats. Voilà, on est aussi présents pour tous nos militaires. Tous les jours, on pense fort à eux. On continue, on est tous là et on est solidaires tous ensemble.
Une nation qui pleure ses soldats, voilà l'image qu'il reste ce soir de cette cérémonie. Dans un discours très sobre, Emmanuel Macron est revenu sur les circonstances du tragique accident de lundi dernier au Mali. Puis il a évoqué chacun des 13 militaires tués en parlant de leur carrière militaire. Un hommage qui a beaucoup ému Maxime, venu d'Arras dans les Hauts-de-France, spécialement pour suivre la cérémonie.
Très, très émouvante, les 13 soldats... ont tous des profils et des parcours très différents. C'était intéressant de pouvoir revenir sur chacun de ces parcours et pouvoir leur rendre hommage tous ensemble aujourd'hui.
Et les 13 soldats ont été décorés de la Légion d'honneur à titre posthume. Emmanuel Macron a épinglé la décoration sur le coussin rouge posé sur chaque cercueil.
Émilie Bojard, et la mort de ces 13 soldats a relancé la semaine dernière le débat sur la présence française au Sahel. Mais selon un sondage IFOP, près de 6 Français sur 10 restent favorables au maintien de nos troupes dans cette région du monde. Dans l'actualité également ce soir, Isabelle, pour la deuxième fois en une semaine, le Sud-Est est sous l'eau.
Oui, les dégâts matériels sont énormes et le bilan humain particulièrement lourd. Bilan qui s'est alourdi aujourd'hui à 6 morts. Le corps d'une femme portée disparue près de Manosque a été retrouvé dans un cours d'eau à 3 km de sa voiture. 2 hommes ont également été emportés par les eaux dans le Var, à Fréjus et à Saint-Paul-en-Forêt. Puis une femme est aussi portée disparue. Et puis il y a ce drame dans le drame, le crash d'un hélicoptère de la sécurité civile qui venait tout juste de décoller de Marignane. Les 3 secouristes présents à bord n'ont pas survécu. Parmi eux, il y a le frère de Stéphane.
Mon frère, c'était un passionné. De tout petit, on était dans ce métier-là, les pompiers. Mon père était pompier, mon grand-père était pompier, mes oncles étaient pompiers. C'est une famille de pompiers, ouais. Tout ce qu'il aimait, c'est sauver des vies. Et voilà. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Moi, je garde tout. Parce qu'on se ressemble beaucoup et parce que c'était un passionné. À fond. C'est pour ça qu'on a toujours eu peur que ça arrive et puis c'est arrivé. Voilà.
En plus, un métier difficile.
Exactement. Mon frère, c'est la plongée, le nettoyage, sauveteur côtier.
C'était un pompier accompli.
Exactement. Un vrai professionnel. Comme je dis, il est parti un héros. Hier, je crois qu'il a fait plus de 16 interventions. Et la 17e, il n'est pas revenu, mais il en a fait 16. 16 dans une journée avec l'hélicoptère à sauver des vies. Quoi. Voilà. Moi, c'est ça que je retiens, que je garderai toute ma vie. Un héros. C'est pour ça que je l'ai dit à M. Castaner. Aujourd'hui, M. Castaner, il enterre 16 héros. Pas 13, 16.
Stéphane au micro RTL d'Étienne Baudu. Le week-end dernier déjà, 6 personnes étaient mortes dans les intempéries. Et puis ce soir dans les Alpes de Haute-Provence, un rocher de 3000 mètres cubes surplombant le village des Mets s'est écroulé sur 5 maisons. 3 habitations au moins ont été détruites. Selon la préfecture, à ce stade, 2 personnes ont été blessées et ont été prises en charge par les secours. Les recherches se poursuivent sur place. Les intempéries pourraient être à l'origine de cet effondrement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se rend sur place.
La réforme des retraites. Alors on ne sait toujours pas très bien à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, on continue à en discuter, Isabelle.
Oui, les consultations entre le haut commissaire Jean-Paul Delevoye et les syndicats se poursuivent et l'exécutif affiche sa préoccupation face à une grève qui s'annonce XXL. Hier soir, le gouvernement au grand complet était réuni autour d'Edouard Philippe. Bonsoir, William Galibert.
Bonsoir.
À quoi faut-il s'attendre d'ici jeudi ?
Eh bien, c'est l'avant-match et avant le match, on se toise, on se jauge, on veut avoir l'air sûr de sa force. Edouard Philippe est donc apparu hier chemise ouverte, main dans les poches. Il a peaufiné les derniers réglages tactiques, déferlement de ministres au micro et sur les plateaux depuis ce matin pour défendre une réforme que l'on nous assure juste et indispensable. Ça va continuer, façon de dire même pas peur, on avance, on a confiance. D'ailleurs, jeudi matin, aux premières heures de la grève, Emmanuel Macron se montrera au travail avec toute son équipe pour un conseil des ministres à l'Élysée.
Alors, beaucoup de détermination au gouvernement, mais c'est moins évident chez les parlementaires.
Et oui, pour porter le message du gouvernement, pour gagner la bataille de l'opinion, il faut des troupes et l'exécutif craint tout simplement que les parlementaires en marche ne tiennent pas le choc si la grève dure, si la colère grimpe sur le terrain et qu'ils lâchent le gouvernement sur les retraites. Un conseiller du pouvoir résume les choses façon Michel Audiard. Il dit « Il y a 2 sortes de majorités, celles qui font redescendre la pédagogie et celles qui font remonter la merde. » Et là, on est plutôt sur la deuxième catégorie.
Oui.
Comme c'est du Audiard, ça passe.
Hein. Voilà, William Galibert qui cite Audiard sur RTL. Sylvie Goulard, mise en examen. L'ancienne ministre est poursuivie dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants d'eurodéputés. Une affaire qui lui a coûté un poste à la Commission européenne.
On fait une courte pause et dans un instant, il y a déjà du stress autour de l'oral du bac. Et pourtant, c'est pas encore la saison.
Il est 18h08. Thomas Soto, RTL Soir. 18h10, la suite de RTL Soir avec vous Thomas Soto et le journal d'Isabelle Choquet.
On les appelle les E3C pour épreuve commune de contrôle continu. C'est une nouveauté du bac réformé et ça inquiète beaucoup Isabelle.
Oui, à partir de cette année, le contrôle continu compte pour 30% de la note finale du bac. Une première série d'épreuves d'histoire géo et de langue vivante est prévue dès le mois de janvier pour les élèves de première. Mais les syndicats estiment qu'elles sont mal préparées ces épreuves et ils demandent leur annulation pure et simple. Dans les lycées, on sent une certaine fébrilité. Vous l'avez vérifié, Frédéric Veil, au lycée Flaubert de Rouen.
Oui, beaucoup d'inquiétudes devant le lycée, à commencer par les élèves de première, un peu perdus comme Walid.
Les profs, ils doivent terminer les chapitres jusqu'au mois de janvier. Nous, on sait que le 20 janvier, on aura des épreuves de mathématiques et de histoire géo qui vont compter pour le bac. Sauf qu'on n'en sait pas plus sur quel sujet. C'est compliqué un petit peu.
C'est compliqué aussi et surtout pour les enseignants qui affirment tous être dans le flou. Sophie Marin est prof d'espagnol.
Là, par exemple, on vient de savoir que la banque de données qui devait être ouverte le 2 décembre sera ouverte le 9. Donc, c'est très compliqué. compliqué. Et surtout, il y a l'autre bac de nos terminales. Il y a les bacs blancs, il y a plein de choses aussi à préparer en même temps. C'est donc deux bacs qui se chevauchent.
Problème donc de calendrier pour Jean-Marc Préel, professeur de sciences économiques et sociales et représentant EFO Lycée.
On ne sait vraiment pas comment on va faire pour préparer ces examens de fin janvier. Tous les jours, des collègues me disent « je ne vais pas tenir le coup ». Il n'y a plus aucune directive claire, nationale, sur les conditions d'examen et le cadrage en fait, de ce qu'on va faire avec les élèves. Et ça, c'est insupportable.
Ici, de nombreux professeurs sont tout simplement contre le maintien des premières épreuves de contrôle continu qui doivent avoir lieu au mois de janvier.
Reportage RTL de Frédéric Veil à Rouen. Direction maintenant Madrid où la COP25 s'est ouverte aujourd'hui. Time for action, le temps de l'action, c'est le slogan de cette nouvelle conférence sur le climat. Une fois de plus, près de 200 pays sont au rendez-vous, mais pourquoi faire ? Virginie Garin, vous êtes sur place pour RTL. De COP en COP, l'urgence est de plus en plus urgente, mais rien n'avance.
Et pourtant, il est écrit partout sur les murs dans cette conférence, il est temps d'agir. Time for action. En fait, on a le sentiment d'un grand retour en arrière. Car par définition, une conférence de l'ONU consiste à mettre tout le monde d'accord, même les pays pétroliers. On y avait pourtant cru à Paris il y a 4 ans, comme l'a expliqué à l'ouverture de la COP ce matin Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies. Souvenez-vous, à Paris, on a promis aux citoyens du monde d'agir. Il faut tout changer, notre façon de faire du business, de nous transporter, de nous nourrir, a-t-il expliqué. Seulement voilà, depuis 4 ans, des pays comme le Brésil, l'Australie ne veulent plus faire d'efforts. Les États-Unis ont quitté l'accord, ce qui désole ce délégué congolais.
Nous avons des États qui ne veulent pas aller de l'avant. Les États-Unis, c'est 18% des émissions globales de la planète. Mais le fait qu'ils se soient retirés de l'accord de Paris, c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas normal.
La présidente des îles Marshall s'est exprimée tout à l'heure dans une vidéo depuis son pays submergé par les inondations. Elle a reproché aux pays pollueurs de ne pas faire assez. Nous sommes dans le couloir de la mort, a-t-elle dit. Nous ne voulons pas mourir, nous vous supplions de faire quelque chose.
Virginie Garin, Madrid pour RTL.
On va en Belgique. Alors nous, on connaît les pièces jaunes. Là-bas, c'est la chasse aux pièces rouges qui est ouverte. Désormais, on arrondit les additions.
Oui, depuis hier, dans tous les commerces, les paiements en espèces sont obligatoirement arrondis. Alors les prix en 1 et 2 centimes vous ramènent à la dizaine inférieure. Mmh. Les prix en 8 et 9 centimes à la dizaine supérieure. Et tous les autres sont arrondis à 5 centimes. Vous n'avez pas tout compris ? Mmh. Les Belges non plus.
C'était pas 10,50 €.
Si, mais avec l'arrondi, maintenant, c'est obligatoire. On doit arrondir au-dessus.
J'ai pas tout compris. Quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? La façon d'arrondir me paraît un petit peu bizarre.
Avec 4, on arrondit à 5. 1 et 2, on arrondit à 0. 6 et 7, on arrondit à 5. Et 8 et 9, on arrondit à la dizaine supérieure. Je trouve c'est pratique parce qu'on accumule les pièces 1 et 2.
On va devoir moins compter de monnaie le soir en faisant la caisse. Et de toute façon, le client, en général, ne demande pas souvent pour avoir sa petite monnaie.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de rouge dedans.
Moi, je trouve que c'est un peu compliqué les choses pour pas grand-chose.
Nos amis belges au micro RTL de Caroline N.
Merci Isabelle, à tout à l'heure.
RTL Soir, 18h14.
Il a été le Gérald Darmanin de François Hollande, autrement dit son secrétaire d'État au budget et aux comptes publics. C'est dire si son regard sur la réforme des retraites est affûté. Tout de suite, c'est Christian Eckert qui est l'invité d'RTL Soir.
Et pour interroger en direct Christian Eckert, appelez-nous au 3210. Thomas Soto, RTL Soir.